Enjeux de recrutement, formation professionnelle, dialogue social ou encore santé au travail, les missions des professionnels des ressources humaines sont, comme vous le savez, extrêmement variées. Et c'est sans compter le contexte actuel qui rend tous ces sujets plus passionnants que jamais. L'occasion était donc toute trouvée de vous proposer ici d'aborder les principaux sujets d'actualité RH du moment. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Richard, DRH et présidente de l'ANDRH que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec HULTEF Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Bonjour Audrey.
Bonjour Guillaume.
Je suis vraiment super content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet, un petit sujet, revue de presse RH. On va faire un peu un état des lieux du domaine RH actuellement, si tu le veux bien. Mais peut-être
avec
en quelques
plaisir.
Mots, est-ce que tu pourrais déjà te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices ?
Bien sûr. Donc moi je suis Audrey Richard, je suis la DRH du groupe UP et en même temps la présidente bénévole de l'ANDRH, c'est l'Association Nationale des DDRH, ou des, de la famille RH hein, en tout cas, et qui rassemble beaucoup d'adhérents, on est 5588 précisément, et ce qu'il faut noter c'est qu'à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés. Je dirais 80% du monde privé, 20% du monde public. Et l'ensemble de ce collectif se retrouve régulièrement dans 70 groupes locaux. Donc, on est sur l'ensemble du territoire national et on colle et on est représentatif du tissu économique. Et donc... Donc voilà le collectif de la LNDRH.
Eh ben c'est cool en tout cas, j'aime bien cette notion de famille RH, on enregistre en famille du coup aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet justement d'un peu d'état des lieux RH, de revue de presse RH à travers quatre sujets. Le premier sujet c'est celui de l'emploi, le deuxième celui de la formation et de la reconversion, le troisième celui du dialogue social et enfin pour terminer en beauté j'allais dire celui de la santé au travail et de la santé mentale qui est évidemment un vrai sujet qui est une vraie préoccupation actuellement dans le domaine RH. Alors si tu veux bien on va commencer par le sujet emploi Audrey, c'est vrai qu'actuellement on fait face à une véritable pénurie de main d'œuvre. C'est un défi majeur pour pas mal d'entreprises et quelles sont donc les stratégies que les DRH peuvent adopter selon toi pour attirer et fidéliser ou travailler en tout cas sur ce sujet de la rétention des talents.
Oui, c'est vrai que ce sujet, finalement sur ce sujet, on est tous concernés. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se passe, cette problématique, on la rencontre sur l'ensemble du territoire, on la rencontre sur l'ensemble des secteurs, ainsi que sur l'ensemble des métiers. Donc on est tous concernés par la recherche de compétences. Donc on se pose tous la question de pourquoi à ce moment-là, pour quelles raisons, où sont les compétences. Bref, il n'en est pas moins que nous, dans nos politiques RH, stratégies RH, on s'est beaucoup posé sur cette question. Quand on regarde, ou en tout cas quand on écoute les salariés qui sont en recherche d'emploi, donc les candidats, ou même les salariés qui sont dans l'entreprise, ce qui va compter en numéro un, et c'est important de le dire parce que souvent il y a des informations contraires, mais ce qui va compter vraiment en numéro un, ça va être le package. D'accord. Ça va pas être la flexibilité, le télétravail, comme on entend parler de cela aujourd'hui. Le numéro un, c'est bien le package. Est-ce qu'on est en termes de rémunération au niveau du marché? Okay. Une fois qu'on a réglé cette problématique de « oui, on est au marché », alors, bien évidemment, il est intéressant de travailler sur une politique RH attractive qui va proposer de la flexibilité. Là, on peut arriver évidemment sur le télétravail, Maintenant, il faut quand même avoir en tête que on est en France sur à peu près un quart de métiers qui sont télétravaillables. Donc, il y a quand même tous les autres qui sont non télétravaillables. Mais bon,
ça fait beaucoup,
dans
fait,
les annonces,
on s'en rend pas compte.
Voilà. Exactement, on parle tout le temps de télétravail, mais en réalité, il y a plein de métiers qui sont non télétravaillables. Donc, le package, ensuite, évidemment, de la flexibilité quand même, donc télétravail ou d'autres modes d'organisation, on pourra peut-être y revenir par la suite.
Les congés illimités.
Alors voilà, il y a des entreprises qui ont, il y a des entreprises qui ont opté pour, vous vous gérez au niveau de vos congés, ça se voit, ça se développe, mais on voit surtout que des entreprises testent des choses pour être attractives. Donc, évidemment, qu'en termes de politique RH, un candidat, il va avoir plus envie d'aller vers une entreprise qui s'investit sur la transition environnementale. Évidemment que ça va être attirant pour
ça, c'est une réalité, tu t'en rends compte en tant que DRH ou en discutant avec les adhérents?
C'est une réalité, mais il faut juste pas se tromper de priorité. Et vraiment, je le redis, la priorité numéro une, c'est bien le package et le niveau de rémunération à avantage, en fait, en gros. Donc c'est très, très important, à mon sens, d'avoir cela en tête. Et ce qui va compter aussi, c'est tous les moments importants de la vie dans l'entreprise. Je pense que nous, RH, et je fais partie aussi avec mon équipe, hein, c'est la même problématique pour nous. Je pense qu'il est intéressant de se questionner sur est-ce qu'on est totalement exemplaire dans tous nos process RH. Je prends des exemples. Au niveau du recrutement, est-ce qu'on répond à chaque personne qui va nous écrire en nous proposant son dossier, sa candidature? Oui, non, je conseille de le faire, et dans 100% des cas. Est-ce que dans la partie intégration, le salarié arrive, il a déjà son ordinateur, sa petite carte de visite éventuellement, son petit tote bag avec les éléments de marque employeur? Est-ce que ça, c'est déjà préparé, etc. Et tous les moments forts de la vie de l'entreprise, est-ce qu'ils sont totalement bien clean et bien fait? Je prends un autre exemple sur les congés. Est-ce que pour déposer des congés, il faut faire aller dans telle appli, cliquer ici, puis là, ou est-ce que en deux clics, c'est fait? Voilà.
On lui simplifie la vie, en fait.
Oui, parce que le salarié, il est citoyen, il est consommateur. Aujourd'hui, c'est très facile d'aller et en deux clics, on a déjà de la visibilité sur un bien, ça arrive à la maison le lendemain. En entreprise, on s'attend à ce que ça soit aussi fluide, flexible, simple. Donc, on a encore du boulot parce que dans les outils RH, dans les process RH, à mon sens, il y a encore des choses à faire évoluer pour nos salariés.
Ouais, j'aime beaucoup cette logique justement un peu d'accompagnement, de prendre par la main les candidats et les salariés lorsqu'ils sont en poste ensuite, de les chouchouter en fait. On leur crée un environnement de travail propice à leur épanouissement, c'est un peu ça en fait l'idée.
C'est exactement ça, ou en tout cas les salariés attendent ça. Ouais. Après évidemment, on est sur le principe de réalité des équipes managériales, des équipes RH. Donc, on a tous à progresser aussi collectivement. La NDRH, l'association, c'est aussi son objectif d'aider de façon opérationnelle les RH sur le terrain, de leur simplifier la vie avec des mémos synthétiques, une explication de la loi, avec un dossier de fond sur tel et tel sujet qu'on retrouve dans le magazine ou qu'on peut écouter en podcast, comme on fait là, ou en webinar avec les spécialistes. Un des objectifs, ou en tout cas l'objectif premier de l'association, c'est bien ça, hein, c'est d'aider le RH dans son job au quotidien.
Ah bah en tout cas, c'est canon de savoir qu'en tant que DRH, on peut disposer de toutes ces ressources, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'avais une petite question alors, sur un sujet spécifique que d'ailleurs j'ai abordé la semaine dernière en formation, en tout cas une DRH a abordé ce sujet volontairement en formation, elle m'a dit « c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeunes diplômés, mais on se concentre finalement assez peu sur les seniors ». Alors que les seniors, on peut aussi les recruter, il y en a beaucoup qui sont en recherche d'emploi. Comment on peut encourager en tant que DRH cette pratique de recruter des seniors, travailler sa marque employeur pour attirer spécifiquement ces profils-là? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place?
Alors, là, je vais reprendre ma casquette à NDRH parce que l'association, depuis plusieurs années, parle des seniors et vraiment met le doigt sur ce paradoxe qui dit, d'un côté, on a une pénurie de main-d'œuvre et de l'autre, on a des seniors en recherche d'emploi. Donc, un paradoxe juste énorme. Mmh. Il y a de la compétence. Ouais. Et par ailleurs, quand on va aller questionner les entreprises sur les seniors, sur leurs peurs, leurs craintes, ou quand on va aller questionner les seniors eux-mêmes, et il y a, je vous invite vraiment à regarder, il y a Alternego qui a fait une étude, qui a interrogé 10 000 salariés et salariés seniors en entreprise, et ce qui ressort est extrêmement intéressant, je trouve, où là on voit que le senior dit que, bah, en fait, il est carrément engagé, toujours, qu'il a plus de temps et plus de disponibilité dans mentale ou de disponibilité tout court parce qu'il a réglé un certain nombre, il n'a plus d'enfants à gérer en bas âge, etc. Et que donc, contrairement à ce que certains peuvent dire, penser, bah, le senior, il est là, il est ultra motivé, hyper engagé, il a réglé un certain nombre de sujets les plus disponibles.
Ouais, plus et de donc, motivation et moins de charge mentale, en fait, c'est un peu ce que
exactement,
tu nous dis là.
Exactement, exactement. Et donc, bah, allons-y. Et justement, bah, pas plus tard que la semaine dernière, on a travaillé avec tout ce collectif de RH sur un plaidoyer, parce que finalement, on parle de la problématique des seniors en France, de l'emploi des seniors. Il faut quand même se dire que sur le taux d'emploi, on est vraiment mauvais. On est en dessous de la moyenne européenne en termes de taux d'emploi. C'est juste pas normal. Pourquoi d'autres pays arrivent mieux que nous? Voilà, donc on peut tout à fait faire mieux. Et donc, on a été, et on a écrit, on a voulu aller un petit peu plus loin dans le débat autour de l'emploi des seniors, et on a travaillé sur un plaidoyer autour de l'emploi des seniors en disant, bah, en fait, tout à l'heure, tu parlais des jeunes. Il y a quelques années, on avait une problématique sur les jeunes professionnels, et on s'est tous mobilisés. Le gouvernement, les entreprises, les DRH particulièrement, se sont mobilisés. Il y a eu un plan, un jeune, une solution.
Ouais.
Et ça a vraiment marché, ça a fonctionné. Et donc, nous, on dit, bah, peut-être qu'il faut, imaginer un plan, un senior, une solution avec et dedans. On ne demande pas d'exonération particulièrement. Dedans, tout. On peut construire sur la base de d'idées autour de, par exemple, essayer d'inventer une sorte de CDI qui se terminerait une fois que le senior a atteint sa retraite à taux plein. Par exemple, on a parlé d'index senior qui, l'idée, c'était pas que ça soit punitif, l'idée, c'était de faire de l'information sur le sujet de l'emploi des seniors, on forme comment les seniors, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le sujet. Voilà, juste, bah, mettons-nous tous autour de la table, allons-y.
Ouais, c'est intéressant en tout cas de se baser sur un système qui fonctionne pour les jeunes, un jeune, une solution.
Voilà,
et, voilà, pourquoi pas étendre le concept effectivement sur un mode un senior, une solution. On trouve des solutions concrètes. Hein. Merci Audrey, super, super intéressant en tout cas. Est-ce que sur ce volet spécifique emploi, tu vois d'autres tendances ou d'autres défis un peu majeurs que les DRH devraient avoir à l'esprit en ce moment?
Alors oui, il y a vraiment un point d'actualité en ce moment, c'est tout le travail qui est en train d'être fait pour transformer Pôle emploi en France Travail. Et justement, nous, on a été creuser le sujet en allant voir nos DRH en disant bah, finalement, quelles sont vos attentes sur le sujet. Et il y a trois éléments majeurs qui ressortaient. Le numéro un, c'était le fait de dire... bah, France Travail doit développer son offre de services pour recruter plus simplement. Et donc, l'accent était mis sur l'offre de services parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Pôle emploi a une offre de services très développée. Mais nous, sur le terrain, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, quand on est en recherche d'emploi, le premier réflexe, c'est pas d'aller toquer à la porte de Pôle emploi et aider-nous à recruter. Bah non, en fait, malheureusement, aujourd'hui en France, c'est plus ça qui se passe. Notre premier réflexe, ça va être d'aller sur LinkedIn ou de faire appel à notre réseau. Donc, il y a quelque chose à transformer parce que là, il y a quand même un outil majeur. Donc, on a des attentes fortes. Donc, le premier, c'est développer l'offre de service, la faire connaître aux acteurs de l'emploi en France. La deuxième attente, elle porte sur le fait de monter des outils ou de proposer des outils informatiques communs qui vont rassembler tous les acteurs de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
OK.
D'accord. Et la troisième attente porte sur l'accès à la formation, où là, les DRH disent, bon, bah, en fait, donnez-nous l'accès à de la formation, ou en tout, pour les demandeurs d'emploi, bien sûr, en lien avec les besoins de l'entreprise, ça paraît logique, mais former où on a des besoins, nous. C'est un enjeu majeur et c'est un point d'actualité puisque c'est en pleine. France Travail va être créé le 1er janvier 2024.
Ouais, donc l'échéance là arrive très rapidement. Bah écoute, en tout cas, on souhaite qu'effectivement ça évolue plutôt dans ce sens-là. Tu viens de parler de formation, Audrey, justement, c'est notre deuxième sujet sur cette revue de presse RH. Alors la formation et la reconversion, hein, d'ailleurs, sont des sujets clairement essentiels pour que les employés puissent s'adapter aux évolutions actuelles du marché du travail. On a parlé de télétravail, mais l'évolution du marché du travail, évidemment, ça ne se résume pas qu'à ça. Comment est-ce que les entreprises peuvent mettre en place des programmes efficaces de formation et de reconversion, comment est-ce qu'on s'y prend en tant que DRH pour monter justement un programme de formation, un programme de reconversion?
Comment on s'y prend, hein, c'est évidemment en lien avec les managers avec lesquels on travaille, puisque ce sont eux qui connaissent leur métier et qui peuvent nous dire, eh bien, mon métier évolue de cette façon, de cette façon, de cette façon. Donc, évidemment qu'il y a les opérationnels. Mais après, le DRH, il faut qu'il ait un coup d'avance. Il faut qu'il connaisse les métiers et il faut qu'il ait ce coup d'avance de prospective. Donc, pour faire ça, il faut aller lire, il faut aller assister à des conférences, il me semble, en tout cas.
Il faut être curieux, en fait.
Il faut être curieux et aller chercher l'information de ce qui se passe en France, de ce qui se passe en Europe, pour pouvoir aider l'opérationnel qui, parfois, est un petit peu seul ou un petit peu isolé. Donc, il y a ce travail-là à faire pour être dans l'anticipation. Nous, côté RH, on le fait sur les métiers RH. Avec la NDRH, on travaille sur c'est quoi le monde du travail de demain dans nos métiers, l'impact de l'IA, l'impact du métaverse. Et donc, on va tester des choses, peut-être inutilement, peut-être pas. Donc ça, c'est, je dirais que c'est, j'en profite aussi hein, pour aussi indiquer ce que fait la NDRH, et la NDRH travaille aussi sur ces sujets de prospective. Mais pour revenir à tes sujets de formation, ce qu'on voit aujourd'hui hein, dans le contexte actuel de recherche de compétences et de pénurie, on voit de plus en plus d'entreprises qui, vu qu'elles ne trouvent pas en externe, eh bien, elles se concentrent sur leurs people en interne et vont aller davantage sur de la formation interne et de la reconversion.
D'accord.
Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'investir sur nos people et aussi de proposer du parcours professionnel à des personnes qui n'attendent que ça. En fait.
Ouais. Et ça, c'est une vraie tendance, hein, c'est ce que tu constates. Plutôt que d'aller recruter à l'externe, on va faire évoluer les ressources en interne.
C'est ce qu'on constate. Mmh. Et après, le sujet de la formation qui s'est énormément digitalisé après le Covid, on a tous transformé notre formation en formation digitale. Donc, ça a énormément évolué. Et donc, c'est plus facile quand même de se former. Et le message, il est vraiment, la formation, c'est tout au long de sa carrière parce que les métiers changent tellement que si on s'arrête de se former, de lire, de se renseigner, d'être curieux, comme tu le soulignais, eh bien, je pense qu'on peut perdre ses âmes, ou en tout cas ne pas faire évoluer ses compétences, et je trouve que c'est dommage.
Alors justement, tu viens aussi de toucher du doigt le fait qu'on se formait de plus en plus en ligne, hein, surtout post-Covid. Est-ce que ça prend bien ça? Est-ce que les salariés sont suffisamment motivés justement à s'inscrire sur une plateforme et à se former en ligne via des dispositifs type e-learning, etc.?
Je pense que la formation, c'est une histoire de responsabilité partagée aussi. C'est aussi aux salariés de se prendre en main pour aller se former. L'entreprise lui donne les moyens, lui donne le temps sur son temps de travail. Donc c'est aussi à lui de faire cet effort-là, parce que évidemment que c'est un effort de se former. Mais en tout cas, c'est plus facile aujourd'hui avec des outils digitaux qu'hier quand fallait déclencher une formation, etc. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que les formations, ça dépend du sujet de formation. Et parfois, des formations, elles sont mixées avec des intervenants sur certains modules, ou parfois la formation, elle nécessite, pour apprendre des gestes métiers, elle nécessite de le faire en vrai. Mais voilà, après, ça a tellement évolué et ça va évoluer encore énormément. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle où voilà, il y a des formations qui se développent de plus en plus où on met un casque virtuel et où là, on capte vraiment beaucoup plus de choses. Ou voilà, moi je peux juste donner un exemple. Nous on l'a fait chez Up pour parler de handicap. Eh bien, je trouve que le casque virtuel met vraiment en situation pour comprendre davantage que voilà, quand on fait une sensibilisation autour du handicap, on comprend davantage la problématique à travers un outil digital. Après, pour d'autres métiers, ça va pas du tout être adapté. Oui aussi.
Ouais, c'est intéressant ce cas justement d'application que tu as eu au groupe Up. C'est toujours d'être curieux en fait des nouvelles technologies, de ce qui est le plus efficace en fait pour former les collaborateurs et les collaboratrices et leur permettre une reconversion optimisée. Bon, c'est très cool en tout cas sur ce deuxième volet de la formation et de la reconversion. Je ne sais pas si Audrey, tu avais d'autres choses à ajouter avant que je passe à un troisième sujet, à savoir celui du dialogue social.
Non, allons-y sur le dialogue
Allez,
social,
on fonce sur le
c'est
dialogue
un
social.
sujet
Ça, c'est un bon
important.
sujet aussi, hein. Alors, je crois savoir qu'aujourd'hui, un RH sur deux considère qu'il faut mieux communiquer en interne à ce sujet. Est-ce que déjà, tu peux nous redéfinir ce qu'est le dialogue social, Audrey? En quoi ça consiste le dialogue social? Parce que bon,
Ah,
c'est quand
c'est
même
un
un terme un
challenge,
peu
hein.
pompeux, hein.
C'est
J'aime
un
bien les challenges.
challenge, mais le dialogue social est majeur en entreprise. C'est le développement d'une politique sociale avec nos partenaires sociaux. C'est comment j'arrive à travers l'écoute de ce qu'attendent les salariés qui sont remontés par les partenaires sociaux qui sont à nos côtés dans nos entreprises. Comment, grâce à ces remontées-là, moi, RH, je vais faire évoluer ma politique, sachant qu'évidemment, le RH a aussi ses remontées. Mais ça, avec les partenaires sociaux, ça nous donne une autre vision, une autre appréhension des sujets. Mais ce qui va être important et ce qu'on a remarqué depuis ces dernières années, alors à travers la NDRH, à travers nos échanges qui sont quotidiens avec les RH, c'est que le dialogue social de proximité, c'était celui qui fonctionnait le mieux. Parce que quand on a une problématique terrain et qu'on échange avec nos représentants des organisations syndicales, nos délégués syndicaux, pour avancer sur tel sujet d'une négociation, etc., eh bien, ils connaissent les problématiques, les contraintes économiques, sociales, business du terrain. Et nous aussi. Et donc, ce dialogue social va fonctionner et va être beaucoup plus adapté. Et les solutions, on va les trouver ensemble, en fait. Et on les trouve ensemble. Et il n'y a jamais eu autant d'accords signés dans les entreprises que depuis ces dernières années. Donc voilà, ce dialogue est très important. Mais en revanche, ce que tu disais tout à l'heure sur la communication, ça c'est vrai qu'on a remarqué aussi que. Parfois, dans nos entreprises, on négocie un accord et puis, ça y est, c'est fini. Allez, on le met en place. Mais on s'est rendu compte que, en fait, beaucoup de salariés n'ont pas forcément la connaissance de ce qui vient d'être négocié. Donc, une fois qu'on a fini de négocier un accord, il y a toute une phase qui est le plan de com. On va faire quel plan de com? sur l'accord handicap qu'on vient de signer, l'accord sur les salariés aidants, l'accord sur la NAO. Alors, la NAO, ça va plus vite. Hein. les augmentations de salaire, ça va plus vite comme dans la ouais. formation. Mais la communication permet de faire connaître les dispositifs qui viennent d'être négociés, permettre d'informer sur les décisions prises, permet aussi de faire connaître le rôle des élus, des négociateurs avec nous. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de parler de cet après-accord.
Alors, sur le sujet de dialogue social, hein, qui est un sujet quand même assez, assez sympa, je t'avoue que je pourrais en parler des heures, mais j'ai juste une petite question, c'est quelle posture, en tant que DRH, on se doit d'avoir sur le sujet ?
C'est une question intéressante. Et dans la mesure où le DRH fait au quotidien du dialogue social avec ses partenaires sociaux. C'est vraiment une activité quotidienne de notre job. Et je dirais que pour répondre à ta question, que ce qui va, à mon sens, compter le plus, ça va être l'écoute. Mmh. Ça va être l'écoute des remontées de nos partenaires sociaux. En essayant, et c'est vraiment pas facile en fait, hein, c'est évident, mais en essayant d'être le plus neutre dans je reçois l'information et j'essaye de comprendre pourquoi elle vient, alors qu'il est il serait facile de dire non mais ça c'est juste pas possible, on peut pas le mettre en place, etc. Mais si c'est remonté, ça veut dire que le terrain et les salariés attendent ça. Et donc c'est l'écoute, et après il y a le principe de réalité. Est-ce que c'est possible de mettre en place ou d'avancer vers cela ? Est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que ça ne va pas mettre à risque le business, la ligne économique de mon entreprise ? Et c'est toute la difficulté et la discussion qu'on a avec nos partenaires sociaux. Mais on a une responsabilité commune, en fait. Hein. Donc, dans la construction d'une politique sociale, on a cette responsabilité commune.
Okay. C'est vrai qu'on demande pas mal de soft skills aux candidats. Là, on dirait que du coup, la soft skill essentielle à un bon DRH sur le sujet dialogue social, c'est l'écoute. Je le note. Alors, on va passer au quatrième sujet, hein, last but not least. Ce dernier sujet, c'est celui de la santé au travail et de la santé mentale. Et je crois savoir que les DRH, aujourd'hui, souhaitent justement une meilleure prise en compte de la santé mentale en entreprise. Comment, en tant que DRH, est-ce qu'on peut promouvoir un environnement de travail sain, soutenir la santé mentale des employés ?
Alors, là-dessus, on est assez démunis parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a finalement assez peu de médecins du travail. En France, il y a un peu de mémoire, on est sur un peu moins de 5000 médecins du travail en France.
Ah oui.
Et donc, on est vraiment démunis, nous, acteurs de terrain RH, quand on a besoin de discuter avec un médecin, d'une évaluation, d'un conseil, bah, c'est extrêmement limité. Voilà, il y a quelques mois, il y a eu les assises du travail. On a beaucoup parlé de santé au travail parce qu'on s'est intéressé particulièrement aux accidents graves et mortels.
Ouais.
Et donc, le constat, c'est qu'il y a peu de médecins ou il n'y a pas suffisamment de médecins du travail. Et donc, on a été dans les assises du travail sur une proposition pour faire évoluer les infirmiers en pratique avancée. Infirmiers, infirmières en pratique avancée pour donner plus de responsabilités, pour soulager le médecin et répondre davantage aux attentes des acteurs RH du terrain. Donc, ça, c'est en train d'évoluer. Mais sur le terrain, ce qu'on voit aussi, c'est quand on regarde les arrêts médicaux de ces derniers mois, on voit qu'il y a de plus en plus d'arrêts autour de la santé mentale, santé psychologique.
Oui, ça c'est quelque chose qu'on constate. Ouais.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que est-ce que les équipes RH sont formées sur ça ? La réponse est non.
Ouais.
Donc déjà, nous, il faut qu'on se forme, mais précisément pour savoir de quoi on parle, parce que il serait assez simple, assez facile de dire, bon bah voilà, on a une problématique de santé, allez, on va travailler sur la qualité de vie au travail, essayer de faire en sorte de trouver des dispositifs, des intervenants, pour essayer de rendre la vie meilleure au travail. Sauf que en fait, en vrai, La problématique, c'est pas celle-là. Là, on parle de santé. C'est qu'en face, on a peut-être des salariés qui ont des problématiques de santé avec des pathologies. Donc, le danger, à mon sens, hein, il est d'essayer de traiter des pathologies par autre chose, et donc inefficacité totale sur toute la ligne. Ouais. Et donc, on est là aujourd'hui avec, avec le sujet de la santé mentale qui monte. Donc là, la NDRH est en train de travailler dessus pour faire monter les RH sur ces sujets-là, pour essayer de ne pas dire de bêtises et d'avoir la meilleure compréhension pour la meilleure proposition d'action et de plan d'action derrière. Ouais. Mais bon, franchement, c'est un sujet quand même compliqué.
Ça doit être un sacré chantier hein, de rendre les RH justement compétents sur ce domaine qui n'est pas forcément un domaine RH à la base, je veux dire la santé.
C'est ou, pas forcément... ouais. Ou pas, ou juste prendre le choix de dire non, non. Là, évidemment qu'on ne va pas intervenir, on n'est pas médecin. Tu vois ? Donc c'est très sensible comme
justement,
sujet.
Justement, comment sans outrepasser mon rôle de DRH, comment sans prendre justement un rôle qui n'est pas le mien, comment est-ce que je peux quand même aider les employés à faire face à ces défis liés à la santé au travail, à la santé mentale ? Quels sont les bons réflexes à adopter là spontanément ?
Je pense que ce qui est pertinent aussi, c'est de poser la question tout simplement aux salariés. Après, il y a plein de façons, plein d'outils, mais on peut poser cette question. Ouais. On peut évidemment aller voir le médecin du travail quand il est là ou quand on a cette possibilité. Et d'autres compétences médicales ou paramédicales. Parfois, dans des entreprises, il y a une assistante sociale qui peut intervenir. On peut voir des entreprises qui proposent des psychologues. Mais encore une fois, ça, c'est proposé dans des entreprises qui ont les moyens d'investir ou de proposer ce genre de service, entre guillemets, aux entreprises. Et toute une autre frange d'entreprises qui n'a pas ces moyens financiers-là. Ouais. Donc, voilà, donc c'est un peu compliqué et je ferai le lien avec, tu sais, à la NDRH, chaque année, on organise le Grand Prix de la NDRH où justement, on a une section care. Donc, j'en profite. Peut-être que des RH autour de la table ou qui écouteraient ce podcast auraient envie de mettre en avant leurs bonnes pratiques, leurs bonnes initiatives autour de ça pour justement que ça soit mis en avant et que ça profite à d'autres en termes d'échanges de bonnes pratiques. Donc allez-y, c'est maintenant. Vous pouvez déposer vos dossiers si vous le souhaitez.
Go, go, go. Le message est passé. En tout cas, un grand merci Audrey. Alors, on a parlé emploi, formation, reconversion, dialogue social, santé au travail, santé mentale. Moi, ce que je retiens, c'est justement cette posture bienveillante, une posture bienveillante de poser des questions, d'écouter les réponses. C'est un peu ce que je retiens de notre échange, Audrey. Un grand merci, en tout cas, pour cet échange passionnant. On aurait pu en parler pendant des heures. Je ne suis pas sûr que les gens qui nous écoutent aient autant d'heures à consacrer. Mais voilà, encore un grand merci à toi.
Merci, Guillaume. C'est un plaisir. À bientôt.
À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de L'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec Hult EF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.